Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
19h, c'est l'heure. Ravi de vous retrouver. Deuxième jour d'affilée. I'm still alive. Simon Guillain, comment ça va? L'info du soir.
Pleine forme, chère Christine. Bonsoir à tous, chers téléspectateurs. La procureure de la République de Bordeaux s'est exprimée au lendemain de l'agression au couteau qui a fait un mort. L'assaillant aurait reproché à deux individus de boire de l'alcool le jour de l'Aïd. Son identification est en cours. Il s'agirait d'un homme de 25 ans de nationalité afghane. Deux enquêtes ont été ouvertes, dont une par l'IGPN. Deux jours après le meurtre d'un adolescent à Romans-sur-Isère, le principal suspect a été placé en garde à vue aujourd'hui. Ce jeune homme de 15 ans a reçu un coup de couteau mortel alors qu'il s'interposait dans une altercation entre plusieurs adolescents. D'autres suspects sont toujours recherchés. Et puis, poursuivi pour apologie du terrorisme, l'imam de Beaucaire a été condamné en appel à une peine d'un an de prison avec sursis. Au lendemain de l'attaque du 7 octobre, il avait appelé à tuer les juifs. Il a également l'interdiction d'exercer la fonction d'imam, Christian.
Merci beaucoup Simon Guillain. Retour ce soir sur le pacte asile et migration voté hier au Parlement à 2 mois des élections. Un texte en 10 parties. Le RN a voté contre les textes. Reconquête et LR ont voté pour un article en particulier, celui sur la possibilité de filtrage des migrants. Pourquoi le RN a voté contre à la dernière minute après avoir voté pour en commission? Est-ce que ce fameux filtrage permettra de refouler ou pas les migrants? Le filtrage se fait-il, oui ou non, hors frontières européennes? Pourquoi Jordan Bardella, d'en face à l'info hier soir, a déclaré qu'il était le seul à s'être opposé au pacte? Si RN, Reconquête et LR veulent tous stopper l'immigration, que s'est-il passé sur cet article? Nous allons tout analyser avec l'édito de Mathieu Bock-Côté ce soir. L'assassin présumé au couteau à Bordeaux serait un Afghan de 25 ans. Il s'en serait pris à deux des victimes car il buvait de la bière le jour de l'Aïd el-Fitr. Au lendemain de cette agression meurtrière, on se demandera de quoi ces successions de faits sont-ils le nom. Samara, frappé car il s'habillait à l'européenne à Bordeaux et à Bordeaux car il buvait de l'alcool. On s'arrêtera également sur cette vidéo, vous voyez, virale d'une femme voilée qui voulait s'imposer à son employeur qui refuse sa tenue. Il est désormais menacé de mort. Mais plus largement, les professeurs poignardés, le proviseur qui quitte ses fonctions, des professeurs qui ne peuvent plus parler de la Shoah, les menus séparés à la cantine, les piscines à horaires séparés pour les hommes et les femmes. En quoi ces faits sont-ils dérisoires? L'analyse de Geoffroy Lejeune. Les textes et encore les textes. Sans réelle surprise, le Conseil constitutionnel s'est prononcé contre la demande de référendum d'initiative partagée RIP, demandée par les Républicains. Cette demande de référendum portait sur la réforme des prestations sociales pour les étrangers, des quotas d'immigration pour le travail ou encore la restriction du regroupement familial. Des mesures rejetées, souvenez-vous, lors de la loi immigration, ce qui avait bien secoué les Républicains. Quelles conséquences concrète sur le fond et quelles conséquences concrètes pour LR, le regard de Guillaume Bigot. Près d'un an après les émeutes suite à la mort de Naël, la commission des lois du Sénat a présenté son rapport sur ces violences. Les sinistres représentent près de 800 millions d'euros. Les sénateurs formulent 25 propositions en espérant qu'elles soient reprises par le gouvernement. Quelles sont ces propositions? Quels sont les profils des émeutiers? Le décryptage de Charlotte Dornelas. Et puis, beaucoup de questions se pose au lendemain de l'attaque de Bordeaux. L'Afghan, je le disais, a priori de 25 ans, qui a tué une personne et grièvement blessé une autre en les poignardant parce qu'il buvait de la bière le jour de l'Aïd el-Fitr. L'assaillant a été tué par la police après avoir tenté de prendre la fuite. Le maire de Bordeaux, Europe Écologie Les Verts, s'est empressé de déclarer que l'armement de la police municipale n'aurait pas évité le drame. La police municipale de Bordeaux ne dispose pas d'armes à feu. Faut-il donc armer la police municipale? L'édito de Mathieu Bock-Côté. une heure avec nos mousquetaires. Geoffroy Lejeune est avec nous ce soir, Guillaume Bigot aussi, Charlotte et Mathieu. C'est parti. Vous avez pu suivre la conférence de presse du procureur de la République de Bordeaux en début de soirée sur CNews au lendemain de l'attaque meurtrière à Bordeaux. Écoutez un extrait du procureur de la République.
Ils étaient invectivés aux alentours de 19h30 par un individu pour des raisons a priori liées, selon les premiers témoignages et plusieurs témoignages, à leur consommation d'alcool. Le mis en cause, décrit comme porteur d'un camis et d'un keffier couvrant son visage, ne laissant voir que ses yeux, frappait dans un premier temps les deux victimes à coups de poing, puis il s'éloignait. Ces dernières se relevaient, puis lançaient des canettes de bière en direction de leur agresseur, lequel revenait alors vers elles, sortait un couteau à cran d'arrêt et les poignardait tour à tour.
Grâce à la base de données Eurodac, a dit la procureure, l'auteur de l'attaque meurtrière à Bordeaux est à ce jour en cours d'identification. Une base de données dont il est question dans le pacte Asile et Migration. Cet homme serait un demandeur d'asile. Nous voilà au cœur du débat ce soir, Mathieu Bock-Côté. On va en parler puisque hier, après des mois et des années d'attente, le Parlement européen a voté le pacte européen sur les migrations. Alors pour ses défenseurs, il s'agit d'une avancée majeure historique. Mais à droite, plusieurs refusent d'y souscrire. Ils y voient une machine à favoriser la submersion migratoire. On a peine à s'y retrouver, au point même que Jordan Bardella peut accuser Reconquête d'avoir soutenu ce projet. C'était dans notre émission hier soir, ce que Marion Maréchal conteste en accusant Jordan Bardella de mentir. Écoutez-le et on revient tout de suite.
Ce texte prévoit par un dispositif qui s'appelle le filtrage, qui est en fait un dispositif d'accueil et de prise en charge. Il bannit totalement la possibilité de refouler les migrants qui arrivent à la frontière et prévoit la prise en charge automatique à la frontière intérieure de l'Union européenne des migrants ou des éventuels demandeurs d'asile. Moi, je défends une solution qui est radicalement différente, qui est la seule en réalité qui doit nous permettre de nous protéger d'un afflux de plus en plus important, c'est le traitement des demandes d'asile dans les ambassades et consulats français à l'étranger, parce qu'en acceptant le principe de traiter les procédures d'entrée sur le territoire de l'Union européenne à l'intérieur de nos frontières, on crée en fait les conditions d'un traitement qui est parfaitement ingérable compte tenu du flux. Je vous rappelle que l'année 2023 a été l'année de tous les records et que le nombre d'entrées sur le sol européen par la route migratoire de l'Afrique de l'Ouest a augmenté de 541%. Donc voilà, l'Union européenne et Emmanuel Macron veulent répartir les migrants dans nos communes. Moi, je veux les faire repartir.
Clarification avec vous, Mathieu Bock-Côté, ce soir. Pourquoi Jordan Bardella a déclaré qu'il était le seul à s'être opposé au pacte? Pourquoi le texte sur le filtrage divise? Ce texte est-il une avancée ou pas? Cacophonie à tous les étages.
Oui, j'ai passé ma journée dans tout ça et j'ai l'impression, au terme de ma journée, d'avoir un immense mal de tête et d'être devenu bien, malgré moi, professeur en droit constitutionnel européen.
Expliquez-nous.
Ce qui est une triste vocation. Alors, d'abord, petit retour sur le pacte. Donc, quand on dit ce fameux pacte, de quoi parle-t-on pour savoir ensuite autour de quel enjeu il y a eu cette division entre deux figures de la droite nationale? Premier élément, donc, le point d'origine, si on veut, du pacte européen sur l'immigration. Alors, je précise que dans les journaux, on va nous dire quelquefois, on en débattait depuis 4 ans, depuis 6 ans, depuis 10 ans. Donc, il y a même le récit médiatique du pacte n'est pas le même d'un journal à l'autre. Ça, c'est une chose qui est assez importante de mentionner. Donc, le point de départ, évidemment, cela dit, c'est la crise syrienne, quand les colonnes de migrants pénètrent de force à l'appel, par ailleurs, de Mme Merkel, donc, sur le territoire de l'Union européenne. Mais il y a une forme d'amplification du mouvement historique migratoire alors. Je précise, hein, la submersion migratoire européenne ne commence pas en 2015. Faut simplement le garder. Ça commence dans les années 80. Par ailleurs, il y a une accélération à partir de 2015 qui fait éclater devant nous ce concept auquel plusieurs tiennent, le droit d'asile. Donc le droit d'asile, on constate autour de 2015 que le droit d'asile tel qu'on le comprenait jusqu'alors et tel qu'on est appelé à le comprendre alors qu'il y a une amplification des vagues migratoires, une amplification de la submersion migratoire, le droit d'asile ne répond plus ni à sa vocation historique, ni à la réalité des problèmes. Alors, que faire devant cela? Il y a une volonté de réformer l'interprétation du droit d'asile en l'encadrant. Si on résume ce qu'il y a dans ce pacte, il y a plusieurs autres choses, je ne serai pas exhaustif, je le précise. On peut dire qu'on cherche à encadrer le droit d'asile en l'élargissant. Donc, les deux éléments selon l'angle que vous choisissez. Donc, on l'encadre, effectivement. On cherche même à avoir des mesures un peu plus fermes envers certaines catégories de migrants qui pénètrent le territoire européen. Mais globalement, s'il fallait résumer ça d'une formule politique, ce pacte a pour fonction de transformer les migrations irrégulières en migrations régulières. La vocation politique ou historique de ce pacte, c'est de faire en sorte de lutter contre l'immigration irrégulière, non pas en refoulant les populations qui entrent sans en avoir le droit en Europe, mais en transformant le droit de telle manière pour que ceux qui en arrivent sans en avoir le droit en aient le droit finalement. Donc ça, il faut garder cela à l'esprit quand on veut comprendre quelles sont les divisions autour du pacte. Je précise que les oppositions sont nombreuses. À gauche, dans la gauche radicale, plusieurs disent c'est un texte anti-humain, anti-humaniste et ainsi de suite. Donc pour eux, ce pacte va trop loin. Pour la droite nationale, une partie de la droite conservatrice, on peut penser à François-Xavier Bellamy, le texte en lui-même est fondamentalement insuffisant. Certains diraient probablement, les plus nationaux dans tout ça, ils vont dire pourquoi est-ce que l'Europe doit avoir le primat sur la nation ou sur l'État dans tout ça. J'y reviendrai, c'est un élément important. Et au centre, entre guillemets, ils ont l'impression, vous savez, c'est l'étrange orgueil des centristes, si la gauche est contre moi et si la droite est contre moi, c'est donc que j'ai raison. Non, c'est peut-être que vous avez tort deux fois. Alors, quoi qu'il en soit, il y a cette prétention qu'ont les centristes de dire ben, on a le texte d'équilibre, justement. Je pense qu'une chose qu'on peut retenir de ce pacte, je donnerai ses principaux éléments dans un instant, c'est que ça contribue, on parle souvent du concept de souveraineté européenne, on en parle assez souvent même, ça contribue à créer pratiquement une souveraineté européenne en matière migratoire. C'est-à-dire le cœur de ce pacte. Peu importe ce qu'on en pense, s'il va assez loin, pas assez loin, tout ça, c'est un pacte qui contribue à l'accélération du transfert de souveraineté des nations ou des États vers l'Europe. Si on prend ça à l'échelle de l'histoire, l'enjeu principal, il est là. Donc on peut ensuite, dans la mesure où c'est au niveau européen, le vouloir plus ou moins restrictif. Ça, on peut. Mais il faut savoir qu'on accepte avec ce pacte de traiter ces enjeux au niveau européen. Ça, je pense que c'est une chose à mentionner. Alors, il y a trois grands éléments dont on va beaucoup parler. Je reviendrai surtout sur la procédure à la frontière. Donc oui, il y a la procédure à la frontière. Donc, qu'est-ce qu'on fait, en gros, avec les gens qui arrivent? Deuxième élément, un mécanisme de solidarité. Ça, c'est une manière polie de dire qu'est-ce qu'on fait pour les peuples, les pays qui reçoivent, quelquefois, qui débordent, en fait, sur le plan démographique. Donc, c'est la répartition quasi forcé, je dis quasi parce que c'est pas complètement le cas, avec le fait que les États doivent payer une forme d'amende, de subvention, si on veut, c'est lorsqu'ils ne veulent pas d'une partie des migrants, eh bien, ils doivent payer une subvention. Ça fait partie du lot. Et un cadre d'exception, ça, je laisse ça de côté. C'est pas sans intérêt, mais c'est pas notre sujet ce soir. Je note aussi, et ça, c'est une des raisons pour lesquelles ça a pris autant de temps en arriver à ce pacte, qui, par ailleurs, ne fait pas l'unanimité, gardons-le à l'esprit, c'est qu'il y a trois grandes régions en Europe, finalement, qui ne s'entendent pas à partir de leur arrière-fond historique sur la fonction d'un tel pacte. Il y a l'Europe de l'Est, globalement, qui ne veut pas d'immigration extra-européenne. L'Europe de l'Est qui regarde ce qui se passe en Allemagne, regarde ce qui se passe en France, regarde ce qui se passe en Grande-Bretagne, en Suède, puis ils disent « ça n'a pas l'air d'être une réussite, votre affaire ». Et qui, dès lors, disent « ben non, merci ». Il y a les pays à la frontière de la Méditerranée qui ne veulent pas, qui les pays d'entrée, qui ne veulent pas être submergés et subir cette submersion totalement. Et il y a les pays de destination qui veulent mieux encadrer la France, l'Allemagne dans les circonstances. Donc, ayons tout ça à l'esprit et ayons une chose à l'esprit, au-delà de tous ces éléments, c'est que c'est un pacte qui a pour fonction d'absolutiser le droit d'asile. Le droit d'asile devient un droit qui n'est pas en concurrence avec d'autres droits, mais c'est un droit qui transcende tous les autres droits. C'est un pacte qui est conforme au récit qui veut le droit d'asile, le droit fondamental qui fonde notre identité européenne et occidentale. Et dès lors, cette absolutisation du droit d'asile fait en sorte, avec toute une série de procédures, j'évite les détails, toute une série de procédures qui font en sorte que, au-delà de la souveraineté des États, au-delà de la sécurité nationale même, au-delà de considérations, alors laisser de côté l'intégration culturelle, c'est secondaire, si on a tout ça à l'esprit, la vocation de ce pacte, c'est la sacralisation d'un droit d'asile qui transcende tout le reste. Si on a ça à l'esprit, on sait de quoi on parle.
Alors, hier, sur notre antenne, Jordan Bardella a soutenu que le Rassemblement national était le seul à s'être opposé vraiment, je dis bien vraiment, à ce pacte, à la différence de Reconquête et des Républicains. Est-ce que c'est vraiment le cas ?
plus ou moins. Puisque je ne veux accuser personne de mentir ou de quoi que ce soit, je dirais qu'il y a une surinterprétation abusive, peut-être. Alors, sur le fond des choses, il y a 10 textes et 2 sont acceptés par tout le monde, notamment les prises d'empreintes et ainsi de suite. Et on présente ça, soit dit en passant, comme allant de soi. J'en suis pas certain. Parce que dès lors qu'on accepte la première étape du filtrage, qui est la prise d'empreintes, et ainsi de suite, c'est qu'on accepte dès lors le refus du principe de refoulement. Si, dès lors que vous prenez les empreintes, vous acceptez déjà de faire un tri, et ensuite, le débat va porter sur les modalités du tri. Et ça, je précise que sur cette question des prises d'empreintes, le RN a voté en faveur. Donc ça, donc c'est pas un refus complet du fameux pacte dont on parle. Ensuite, le désaccord se tient, donc il y a 8 clauses que le RN a refusées, 8 lois, enfin, et le Reconquête en a refusé 7. Laquelle? C'est celle, donc, la procédure de filtrage. Je précise que, je le redis à mon avis, mais ça, c'est une interprétation plus politique que juridique, dès qu'on accepte la prise d'empreinte, on est déjà dans la logique du filtrage. On sera en désaccord ou non, mais je crois que l'angle mort de ce débat. Une fois que c'est dit, les gens du RN disent, eh bien, dès lors qu'on accepte que les gens arrivent, parce que, bon, le filtrage, ça va s'appliquer à une partie très réduite, quand même, des populations qui arrivent sur le mode de du forçage migratoire. Donc, c'est notamment des pays où il y a moins de 20% des gens qui candidatent au droit d'asile qui réussissent à obtenir le droit d'asile. C'est ceux qui ont brûlé leurs papiers. Donc, une catégorie très particulière qui sera véritablement dans les camps de rétention, comme on dit, avec des procédures assez complexes. Et là, donc, des camps de rétention qui, je le précise, seront traités comme étant sur le mode de l'extraterritorialité européenne. Donc, on dit, ces territoires-là, oui, physiquement, ils sont en Europe, mais sur le plan juridique, ils sont dans une espèce d'ailleurs, ailleurs.
Et là était aussi toute une ambiguïté. Donc, si j'ai bien compris, il y a une première ambiguïté sur le vote du texte,
oui.
Où effectivement le texte du filtrage a été voté par Reconquête et par LR. Mm-hmm. Et par LR, et sur ce filtrage, la question de l'extraterritorialité. Sommes-nous en Union européenne ou pas?
On va le poser simplement. Quand vous allez à l'ambassade du Canada à Paris, est-ce que vous êtes en France ou est-ce que vous êtes au Canada? Mais vous êtes au Canada,
et vous
globalement.
Êtes en France.
Bon, mais le fait est que sur ce territoire, c'est plus la souveraineté française.
Tout le monde a raison.
Alors, et là, donc sur cette question-là, la réponse des gens Reconquête dit dans les circonstances, et aussi les gens de LR, mais puisque l'extraterritorialité, c'est une forme d'institutionnalisation clandestine mais réelle du refoulement. Donc, c'est comme on refoule sans oser refouler, mais on refoule quand même. Ça, c'est l'argument des gens de Reconquête, globalement. L'argument des gens du RN consiste à dire non, c'est pas exactement ça. Dès lors qu'on accepte la présence de tel camp, donc il y a un premier triage, mais dans les faits, vous consentez pratiquement au débordement. C'est une forme d'aménagement pratique qui ne tiendra pas. La seule manière d'empêcher la submersion migratoire, c'est de traiter les choses physiquement à l'extérieur de l'Union européenne. Physiquement à l'extérieur. Autrement dit, pas dans la fiction de l'extraterritorialité. Donc, au final, est-ce qu'on est devant, quand on parle de Reconquête, Reconquête dit on a condamné globalement ce pacte. Ce n'est pas faux. C'est-à-dire qu'on a Reconquête n'a pas soutenu le pacte sur l'immigration, il faut être sérieux. Est-ce que Jordan Bardella, dans les circonstances, c'est quant à lui opposé d'avant... Est-ce qu'en fait, son accusation est mensongère? Je dirais qu'elle me semble exagérée. Mais mensongèrement, parce que le fait est que les gens de Reconquête aussi légitiment une manière de traiter le refoulement, entre guillemets, qui, selon certains, disent que ça ne fonctionnera pas. C'est d'ailleurs la thèse de Fabrice Leggeri, je prends la peine de le dire, qui aujourd'hui est sur la liste, donc l'ancien de Frontex,
qui connaît parfaitement ces sujets.
Qui est sur la liste du RN et qui dit, dans les faits, ça ne fonctionnera pas. Vous comptez les histoires, vous créez les conditions d'une submersion accélérée. Et je note, ce n'est pas un détail, que la fameuse clause qui a été... que Reconquête et les LR ont soutenu et que le RN a condamné hier, eh bien, en commission, il y a quelques mois, le RN l'avait soutenu. Donc là, ce qui est certain, c'est que s'ils l'ont soutenu il y a quelques mois et ils l'ont condamné, ils ont voté contre hier, c'est qu'on n'est pas non plus devant une chose d'une telle évidence que le pacte se joue intégralement sur cette question. Donc, on est dans une forme de flou, sinon politique, à tout le moins juridique. Il se peut toutefois, je le redis, que la véritable question du filtrage, donc du refoulement, j'y arriverai dans un instant, se soit jouée sur la question des empreintes, en fait, parce que dès lors que vous triez, c'est la première étape du tri, ça consiste déjà à refuser une forme de refoulement généralisé à l'australienne, et ça nous entre dans une autre logique politique.
Et selon nos informations, Jordan Bardella aurait changé d'avis après le vote en commission parce qu'il a discuté avec Fabrice Leggeri, ancien patron de Frontex, et à la dernière minute.
Et à 24 heures. Vous savez, quand on change d'avis à 24 heures sur un sujet, ça veut dire que manifestement, ce n'était pas si clair que ça non plus. Donc voilà pourquoi je dis qu'on est dans une zone de flou.
Alors, revenons-y à Mathieu Bocoté. Dernière question. Ce pacte constitue-t-il un progrès, aussi mineur soit-il, dans la maîtrise des flux migratoires, là, sur le fond, vraiment?
Non. Fondamentalement, mais je souligne que le pacte en question, une fois que j'ai dit ça, les trois partis dont on vient de parler, Reconquête, LR, le RN, l'ont condamné. Il faut juste garder à l'esprit, pour eux, politiquement, ils ont refusé ce pacte. Donc, on n'est pas devant lui oui, lui non. Donc, une fois que c'est dit, pourquoi il ne fonctionne pas? Mais d'abord, parce que les mesures de filtrage, je l'ai dit, ça permet peut-être, à la rigueur, si on les accepte, ça permet d'identifier tel ou tel terroriste potentiel, mais on sait que les enjeux sécuritaires liés à l'immigration dépassent largement la simple question du filtrage. Ensuite, l'idée que ça soit traité sur notre sol, même si selon la fiction juridique de l'extraterritorialité, c'est pas sur notre sol, on se souvient du moment de l'Ocean Viking, c'était un peu le même traitement qui avait été réservé. On a vu en combien de temps ceux qui devaient respecter finalement l'extraterritorialité du camp après l'Ocean Viking, on a vu combien de temps ça tenait, et on se rappelle de la réponse d'Olivier Véran, tout ça était conforme à l'état de droit. Parce que ça, c'est pas un détail. Les procédures pour le traitement sont plutôt irréalistes globalement. Donc, l'Union européenne annonce une vraie maîtrise. Bon, globalement, les procédures sont irréalistes. Donc, ce n'est pas à la hauteur. Donc, on fait des promesses. Les moyens ne sont pas à la hauteur. Les complications juridiques se multiplient davantage que de se diminuer. Et ça, c'est pas un détail. Ceux qui, par ailleurs, pénètrent sur la possibilité de demander asile dans un État membre, un autre État membre, ça se maintient d'une manière ou de l'autre. Donc, si vous avez tout ça à l'esprit, vous êtes devant une volonté d'améliorer un petit peu un cadre qui, fondamentalement, ne fonctionne pas et qui est fait pour programmer la submersion migratoire, même s'il ne la désire pas officiellement. C'est le traitement politique que j'en ferai. La vraie question, j'y reviens, ça tient en un mot, c'est la question du refoulement. Est-ce qu'on est capable...
C'est ça, la question.
Politiquement, c'est celle-là. Le refoulement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est est-ce qu'on décide, par exemple, comme voulaient le faire les Danois, comme voulaient le faire les Britanniques, de le dire, les migrants au Rwanda, par exemple, ou au Cap-Vert, c'est différentes propositions. Et là, ensuite, on complique à ce point le parcours migratoire.
Et comme le fait, par exemple, le Royaume-Uni.
Comme le fait surtout...
c'est chez nous.
Et comme surtout l'Australie. La politique de l'Australie. Et qui fonctionne. Et dans les circonstances où ça fonctionne, mais ça exige un courage politique, ça exige de sortir d'une certaine conception du droit. Pas de rompre avec le droit, mais de rompre avec une certaine interprétation du droit. Et je précise que ceux qui voudraient pratiquer le refoulement pourraient le faire de manière unilatérale à partir du niveau national, sans le faire à partir du niveau européen. Ça nous ramène à la question de la souveraineté nationale plutôt que la souveraineté européenne, mais nous n'y sommes pas encore. Il faudrait remettre en question une certaine conception du droit international. Pour l'instant, est-ce qu'il y aura plus ou moins de migrants en Europe dans les prochaines années? Il y en aura davantage, à tout le moins dans le cadre de ce traité.
Guillaume Bigot, vous qui aimez beaucoup la complexité de l'Union européenne, c'est la révélation même de la complexité des textes, donc peut-être même de l'inefficacité, entre guillemets, je m'avance un peu, de l'Union européenne sur ces sujets.
Bah oui, on voit bien que la démocratie européenne, c'est loin de fonctionner. D'abord, je rappelle que la Commission a l'initiative des textes, et c'est pas du tout démocratique. Déjà, on s'aborde la démocratie, bon, passons. Et en plus, cette complexité, c'est une complexité technocratique. C'est qu'on fabrique des textes au kilomètre. Mathieu, qui est quand même très intelligent, a passé toute la journée à essayer de comprendre. Donc ces textes sont quasiment faits pour pas être compris. Et on voit bien l'idée, c'est-à-dire que la vraie complexité, c'est une complexité bidon, si vous voulez, de technocratique. La vraie complexité, celle de l'intelligence artificielle, celle des biotechnologies, celle mathématique, si vous voulez, physique, elle est laissée aux Américains et aux Chinois. En attendant, nous, on produit des textes kilométriques qui sont incompréhensibles. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, évidemment, on sait bien que ça va mal se passer avec l'Europe, l'immigration. C'est exactement comme si vous disiez, bon, alors, on va faire confiance à des fabricants de tabac et ils vont lutter contre le tabagisme. Ben non, en fait, l'Union européenne, c'est sûr, ils vont pas très bien lutter contre l'immigration puisqu'ils en volent. C'est déjà un petit problème quand même, hein. Voilà. Ensuite, comment, et c'est ça l'idée, comment, si on n'a pas la volonté politique soi-même de résoudre un problème, on peut se faire croire à soi-même qu'à 27, on aura plus la volonté. Parce que soyons clairs, en quoi l'Union européenne serait plus efficace? Elle n'est pas démocratique, je le répète. Un, parce qu'elle aurait plus d'argent, c'est l'argent qu'elle a, c'est celui qu'on lui donne. On en a moins grâce à l'Union européenne. Deux, elle aurait des technologies qu'on n'aurait pas à l'Union européenne. Allô, c'est pas possible. Donc, en fait, il faut comprendre pourquoi Reconquête, LR, et même un peu le RN d'ailleurs aujourd'hui, maintenant, cède sur ce thème de l'Union européenne, parce que l'Union européenne a, à l'égard des classes dirigeantes françaises, la même fonction que, on va dire, la ligne Maginot en 40. Vous ne pouvez pas défendre la ligne Maginot au 40, d'être considéré comme quelqu'un de pas sérieux. La ligne européenne, on n'a pas le droit d'être contre si on est pas, on passe pour quelqu'un de pas sérieux.
Il n'y a que Face à l'info pour décortiquer ce genre de sujet. On marque une pause, on revient sur l'actualité avec vous, Geoffroy Lejeune, sur ce qui s'est passé à Bordeaux, avec Charlotte, avec Mathieu, avec vous, Guillaume. Ouh là là, que de sujets. À tout de suite. Retour sur le plateau de Face à l'info. Est-ce que vous avez tout compris? Oui ou non? @ Christine Kelly. Mettez-moi sur Twitter si vous avez compris ou pas. Sur X, on aimerait bien savoir. En tout cas, voilà, tout ça reste aussi un peu délicat et compliqué. Mais on a tenu à prendre du temps pour montrer à quel point c'est compliqué, c'est délicat. Et les avantages, les inconvénients du texte, de cette partie filtrage, etc. On a voulu, on va tout vous dire, faire un débat entre Jordan Bardella et Marion Maréchal, ou bien entre Fabrice Leggeri et Marion Maréchal. Avec les temps de parole, c'est compliqué. Donc on a tenu à tout vous expliquer. On vous dit tout. Alors, beaucoup de sujets ce soir. Geoffroy Lejeune, l'assassin présumé au couteau à Bordeaux, serait un Afghan de 25 ans. C'est ce qu'on a appris ce soir, ayant causé la mort donc d'une personne et blessé grièvement une autre. Et ça serait un différend autour de l'alcool. Qu'est-ce que cela dit de notre société?
Écoutez, il y a deux manières de voir la chose. Soit on considère que c'est un fait divers, horrible, donc on donne notre sentiment, on dit notre compassion. On se concentre aussi sur l'aspect criminel de la chose. On va écouter la procureure qui donne les éléments, les premiers éléments de l'enquête. Et puis dans quelques jours, on oublie tout, c'est ce que font en général les médias. Soit, et c'est ce que je vais essayer de faire ce soir, on essaie de relier ce fait à d'autres faits qui, sur le papier, n'ont pas l'air de se ressembler, qui ont peut-être même des différences de nature, mais pas de degré. Pardon, c'est l'inverse, des différences de degré, mais pas de nature. Et on essaie de comprendre globalement ce qui est en train de se passer. C'est un assassinat, présumé, vous l'avez dit, d'un genre nouveau. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose qui ne s'était pas produit auparavant, en tout cas pas avec cette gravité-là. C'est le tueur qui, au nom de l'interdiction de boire de l'alcool dans l'islam, il est afghan, vous le rappelez tout à l'heure, estime qu'il peut dans un premier temps s'en prendre à des gens qui sont en train de le faire dans l'espace public en France, puis il estime qu'il peut sortir un couteau, agresser ces gens, en tuer un et blesser l'autre. C'est littéralement le traitement qu'on réserve un mécréant. Je vais approfondir un peu ça. On peut souligner d'ailleurs en l'espèce qu'il s'agit de je gère.
Mathieu a perdu son stylo sur les feuilles de Geoffroy.
Mais c'est pas grave. C'est de la déstabilisation normale entre collègues. Tout
Donc on dit afghan, on dit au conditionnel. Et oui, vous dites.
Absolument. Je disais que c'est le traitement qu'on réserve à un mécréant. Je vais aller un peu plus loin. En réalité, il s'agit d'hommes nord-africains. Les victimes sont des hommes de type nord-africain, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils sont en fait finalement pas attaqués en tant que mécréants, comme pourrait le faire un islamiste énervé, mais plutôt en tant qu'apostat. C'est un peu ça la tonalité qu'on sent dans la discussion, la véhémence de la discussion juste avant et dans l'échange sordide qu'il y a entre l'homme qui va mourir et celui qui est en train de le tuer. C'est-à-dire qu'il est en train de reprocher à des gens présumés musulmans dans sa logique à lui de ne pas respecter les règles de l'islam. Petit détour pour expliquer ce qu'est l'apostasie en islam. Le fait de renier l'islam quand on est musulman, de se convertir à une autre religion par exemple, c'est quelque chose de très grave. C'est à égalité avec le blasphème, ça peut valoir la peine de mort. Il y a certains pays, encore aujourd'hui d'ailleurs, qui donnent la peine de mort dans leur code pénal pour l'apostasie. Et c'est globalement quelque chose de très mal jugé, très mauvais dans cette religion. Je donne d'ailleurs un exemple très récemment à Pâques. Il y avait beaucoup d'articles, de reportages sur les conversions au catholicisme, à l'occasion donc de la vigile pascale. Et dans les témoignages qu'on pouvait lire, il y avait ceux de gens qui se convertissaient, qui étaient donc des apostats, qui étaient des musulmans qui se convertissaient, et qui racontaient tous, alors on n'est pas dans un pays avec la charia officielle et un code pénal qui dit que c'est la peine de mort quand on se convertit, mais qui disaient tous par contre que cette conversion leur avait valu une rupture avec l'environnement original et avec leur famille, quasiment dans quasiment tous les cas, et c'était en général assez violent. Je le dis parce que ça joue un rôle important dans ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Bref, à Bordeaux, c'est donc la non-application d'un principe de l'islam dans l'espace public par des gens réputés musulmans qui a été tout simplement puni de mort. Et donc je me permets de vous dire que il faut traiter ça non pas comme un fait divers, mais regardez l'addition, vous connaissez la formule, l'addition de faits divers qui fait un fait de société, et je pense qu'on est en plein dedans.
Alors j'ai entendu déséquilibré, on a l'habitude d'entendre tout ça, mais selon vous, de quoi cette succession de faits récents est-elle le nom?
C'est le nom de l'islamisation, tout simplement, l'islamisation de la France. Alors on peut mettre beaucoup de précautions, on peut dire évidemment qu'il n'est pas français déjà, en tout cas pour l'instant on pense qu'il est afghan, a priori exactement.
Il parle pas très bien le français, disait la procureure, a priori.
On peut dire aussi qu'il n'y a pas tous les jours, et Dieu merci, des assassinats de ce type dans le pays, mais je vais vous relier ça à d'autres d'autres éléments qui, pour le coup, se passent en France et qui concernent des Français. On sait depuis longtemps, notamment depuis les fameux livres de Georges Bensoussan, Les territoires perdus de la République et puis les territoires perdus de la France, que l'enseignement de la Shoah est compliqué dans notre pays, dans certaines banlieues, face à des classes d'élèves qui sont de culture ou de religion musulmane. On sait que c'est encore pire, d'ailleurs, depuis le 7 octobre. On forme les professeurs à tout cela. On sait aussi que Samuel Paty a été assassiné pour avoir parlé des caricatures du prophète, c'est-à-dire pour avoir en fait blasphémé ou encouragé le blasphème. On sait depuis maintenant quelques semaines que le proviseur du lycée Maurice Ravel a quitté l'éducation nationale pour avoir voulu faire respecter la loi, pour le coup la loi française, de non-port du voile dans son établissement, qu'il a été menacé de mort pour cela. Ça, c'était le 26 mars 2024, donc c'est tout récent. Il y a quelques temps, c'était en décembre 2023, une professeure de collège dans les Yvelines a montré un tableau du XVIIe siècle montrant deux femmes nues. Elle a été accusée de racisme et d'islamophobie parce qu'au moment où il y a eu une réaction offusquée de ses élèves, elle leur a demandé si c'était à cause de leur religion. Ça lui a valu des menaces. Je vous rappelle pas tout ce qu'on vient de vivre ces derniers jours, mais très rapidement, la petite Samara a été passée à tabac. Elle a été dans le coma parce qu'elle s'habillait à l'européenne selon sa maman. Deuxième épisode qui pour moi est aussi important que le premier. La même maman a été obligée de lire un texte qui manifestement n'avait pas été écrit par elle pour dire que elle respectait l'islam, que sa fille était une bonne musulmane, qu'elle faisait les cinq prières et elle s'appropriait totalement le fameux pas d'amalgame qu'on connaît bien ici. On sait aussi que le petit Hicham Seddine est mort de ce qu'on appelle un crime d'honneur. Je mets évidemment des guillemets pour avoir outragé une jeune femme. De quel honneur parle-t-on, Christine? De quel honneur parle-t-on? Si ce n'est de l'honneur d'une communauté qui n'a pas la même façon de penser, qui n'a pas les mêmes référents culturels, sociaux, etc. On a des demandes, et ça on le commente régulièrement, de menus séparés ou halal dans les cantines scolaires. On a des mariages folkloriques, je mets encore des guillemets parce qu'en réalité ce sont des mariages traditionnels musulmans qui dégénèrent parfois. Beaucoup de maires d'ailleurs s'en plaignent dans leur commune. On a des demandes d'horaires séparés dans les piscines. On a des demandes de burkini. Ça s'est passé à Grenoble en juin 2022. Bref, l'addition de faits divers finit par faire un fait de société.
Finit par faire un fait de société. Mais alors, que faire contre ce phénomène ?
Eh ben, la première responsabilité qui est la nôtre, je pense, ça doit être de voir cela déjà et de le nommer. Je prenais beaucoup de précautions en disant que c'était un Afghan, donc on ne peut pas dire que ça concerne directement la société française, pour vous dire qu'en réalité, ce qui s'est passé là, c'est-à-dire cette injonction à respecter l'islam dans l'espace public, ça se passe en fait déjà dans notre pays à d'autres reprises. Bruno Retailleau, je crois, a utilisé le bon terme en disant en fait, il faut dire que en France, la charia s'applique dans certains endroits. Sur le constat, pour le coup, moi je vais réconcilier tous les partis de droite, Reconquête est d'accord avec ça, Eric Zemmour le dit depuis des années, et Jordan Bardella l'a dit également aujourd'hui. C'est-à-dire que sur ce sujet-là, pour le coup, ils sont tous d'accord, mais le gouvernement n'est pas d'accord avec ça. Vous n'entendrez personne de la majorité le dire comme ça, et la gauche est évidemment vent debout contre cette explication. En fait, cette islamisation aujourd'hui, elle est telle, celle que je viens de décrire progressivement, que ce n'est plus une question en réalité de laïcité ou d'application de la loi, parce que ceux qui veulent aujourd'hui la faire vaciller et imposer leur façon de penser, leur religion, leur culture, font autrement. En fait, ils ont pour eux la faiblesse de notre riposte et le pouvoir de la menace. Et ça, c'est pour le coup devenu très récurrent. La récurrence est très importante d'ailleurs aussi. C'est pas juste une addition de faits divers que je suis allé collecter dans l'actualité de ces six derniers mois. C'est juste que si on décidait de le faire, on pourrait tous les jours trouver une histoire comme celle-là. Tous les jours, Christine, c'est possible. Certains le font d'ailleurs. Donc ces gens-là ne gagnent pas ou ne gagneront pas parce que la loi changeront. Ils vont pas obtenir tout à coup du Parlement qu'on leur reconnaisse la possibilité de porter le voile partout où ils veulent, etc. Ils réussissent à obtenir des victoires parce qu'ils font peur. Ça, c'est très important. Et parce que ceux qui sont confrontés à eux sont parfois abandonnés par ceux qui devraient les protéger. Parfois décident de se taire pour éviter les problèmes ou de baisser la tête quand ils ont pas envie de mener ce combat. Le rectorat, rappelons-le, dans l'affaire du proviseur de Maurice Ravel, a dit, et personne ne l'a contredit de manière officielle pour l'instant, que le proviseur quittait l'établissement pour raison personnelle, pour convenance personnelle, alors qu'il était juste menacé de mort. Prenons aussi, vous en avez parlé tout à l'heure dans le sommaire, l'affaire de Strasbourg avec la jeune intérimaire qui voulait porter le voile qui a été renvoyée par son patron. Là, c'est exactement la même chose. La loi est du côté du patron parce que elle est en contact avec le public, il peut donc décider, c'est dans un magasin de chaussures, il peut donc décider s'il le veut qu'elle ne sera pas à ce poste-là. Et puis
on s'est beaucoup posé la question pendant la journée, est-ce que...
Ça a été très bien expliqué d'ailleurs par certains, il était dans son droit, il aurait pu ne pas l'être.
Mais il est menacé de mort.
Mais voilà, et il est évidemment menacé de mort. La jeune femme le sait très bien, et c'est ça qui est intéressant dans ce qui s'est passé. Elle le filme, elle le montre, justement parce qu'elle sait qu'en provoquant ces menaces, cette émotion dans la communauté des islamistes de Twitter, que ce monsieur va avoir, lui, dans la vie réelle, pour le coup, et on n'est pas sur une bulle Internet, des problèmes dans sa vie, et que donc le prochain, peut-être, n'aura pas la force, le courage ou la détermination de refuser ça. Et ce que j'ai dit depuis le début de cette chronique, tous ces faits qu'on voit passer dans l'actualité, qu'on retient, puis qu'on oublie, etc., en réalité, je pense surtout que s'ils s'étaient produits il y a 20 ans, ils auraient provoqué chacun individuellement un choc énorme dans l'opinion publique. Comme l'affaire du voile de Creil, c'était en 1989, on en parle encore aujourd'hui parce qu'à l'époque, l'opinion a été choquée, des intellectuels de gauche, de droite, etc., ont écrit sur le sujet. Aujourd'hui, c'est devenu une actualité qui est traitée par certains médias qui ont décidé de le faire, qui est occultée par d'autres parce qu'ils ont décidé de le faire. Et il y a une progression dans l'intensité, il y a une progression dans la détermination en réalité de ceux qui veulent imposer leur façon de penser et leur religion qui est sidérante. On en arrive au point, c'est ce qui s'est passé à Bordeaux, où des musulmans modérés sont visés en tant que musulmans modérés par des musulmans plus radicaux parce qu'ils veulent tout simplement imposer la peur. Donc c'est triste à dire, mais je vais être obligé de donner raison à Bruno Retailleau et à Éric Zemmour et à Jordan Bardella qui ont aujourd'hui utilisé cette formule. C'est en effet aujourd'hui certains territoires appliquent la charia, là où la communauté musulmane est majoritaire, là où les islamistes sont plus représentés. Et j'ai envie de vous dire, Christine, c'est de pire en pire.
Alors, je vais peut-être me tourner vers Charles Dornelas, peut-être pour réagir. Je me pose beaucoup de questions. Tous ces musulmans modérés, entre guillemets, qui veulent s'intégrer, on a l'impression qu'ils se mettent sous la responsabilité, sous la protection de l'État. Que fait l'État ? Première question. Et deuxième question. On dit, par exemple, qu'il y a plus de féminicides que ce genre d'attaque. On dit aussi, par exemple, que souvent, c'est parce que ces personnes immigrées sont mal accueillies en France. Et c'est la raison pour laquelle elles réagissent ainsi. Comment réagir par rapport à ces trois interrogations ?
Le fait de punir l'apostasie ou les mécréants ou d'avoir une inégalité entre l'homme et la femme, c'est pas une question d'accueil, puisque c'est vrai à peu près partout dans le monde, notamment dans les pays dans lesquels ces personnes naissent, hein, les islamistes, dans les pays où ils naissent, donc ils sont a priori bien accueillis, puisque c'est leur pays, ils se comportent exactement de la même manière, déjà pour commencer. Donc c'est une entreprise de conquête qu'on trouve absolument partout dans le monde, et de la même manière en France. Moi, ce qui me stupéfait, c'est que ça n'est jamais lié à la question de l'immigration, alors que c'est évidemment une question qui d'abord est importée là-dessus et qui aujourd'hui, on pourrait se dire, aujourd'hui, on a en effet, parfois la question se pose sur les troisième et quatrième générations. Donc l'homme politique aujourd'hui, il se dit, ces gamins-là, la troisième, quatrième génération, ils sont français, nés en France. D'accord, mais dans ces cas-là, on stoppe le robinet tout de suite par prudence en disant, on a déjà une question de vivre ensemble réellement, c'est-à-dire de refaire une société entre nous. Il faudrait se poser la question quand même de faire continuer à arriver des gens comme cet afghan, a priori. S'il n'est pas afghan, il est d'ailleurs, mais a priori, il est demandeur d'asile en tout cas.
Il est demandeur d'asile. Le mot immigration, vous l'avez abordé. On verra s'il est dans le rapport des sénateurs. On en parle avec vous dans un instant. D'abord, avec vous, mon cher Guillaume Bigot, on a appris là ce soir là, que finalement, le Conseil constitutionnel a rejeté, retoqué, censuré la demande de LR de vouloir examiner un RIP, un référendum d'initiative partagée sur des textes que voulait LR, notamment sur l'immigration, les mêmes textes qui avaient été proposés et refoulés dans la loi immigration.
Proposé par qui LR, enfin ajouté dans le projet de loi immigration, et décidément c'est la fête des stylos ce soir, et retoqué par qui par le Conseil constitutionnel. Donc là le suspense n'était pas vraiment intenable, on va dire, c'était couru d'avance, puisque les mêmes juges du Conseil constitutionnel avaient retoqué et les mêmes dispositions que LR a essayé de faire refaire passer, qui n'étaient pas sorties par la porte de la loi, et ils voulaient faire passer par la fenêtre de cette procédure spécifique du référendum d'initiative partagée. Quelles dispositions ? Réduire l'accès aux aides sociales, surtout si les étrangers ne les financent pas, ne contribuent pas.
Pas de cotisation, voilà. Pas de droit.
Donner aussi un délai avant de pouvoir y accéder. Et puis, plein de choses, enfin, des quotas migratoires. Et aussi, il y avait cette idée de restreindre un peu le droit d'asile. Et là, il y a un rejet sec du Conseil constitutionnel. C'est-à-dire qu'il n'est même pas rentré dans tous les détails. Il a dit, dès le départ, ça sort complètement du cadre du RIP. Censure sèche, c'est disproportionné, etc. etc. Bon. En fait, il faut dire un mot de ce RIP. Il y a une espèce d'ironie à ce que LR utilise ce RIP. Pourquoi ? D'où vient ce RIP ? En fait, c'est un LR qui l'a inventé. C'est le président Sarkozy. Puisqu'il avait mis à la poubelle le résultat du référendum de 2005, on se souvient avec le traité de Lisbonne, et que, comme une sorte de lot de consolation, hein, pour faire plaisir, il a donné de la mie de pain au canard, il a fabriqué cette sorte de référendum d'initiative partagée qui permet de faire une sorte de référendum, d'utiliser plus fréquemment le référendum et de faire croire que le peuple pourrait en avoir l'initiative.
Mais on a déjà parlé de ça ici, il servira à rien. Hein,
non, il est tellement complexe dans sa construction qu'il peut pas fonctionner. Ensuite, de l'utiliser et de faire un référendum sur l'immigration, c'est quand même, les LR sont un peu les ralliés de la 23e heure. C'était le RN en 2021 qui avait eu cette idée. Ensuite, Reconquête a été créé en novembre 2021, a repris l'idée. Et maintenant, LR, après avoir dit ah non, c'est contre l'état de droit, maintenant ils le font. Voilà, donc c'est très ironique parce qu'ils se retrouvent effectivement face à la difficulté d'utiliser ce truc qui est fabriqué par Nicolas Sarkozy pour ne pas être utilisé en réalité.
Alors c'est ironique, c'est pas... Voilà, on savait aussi que le Conseil constitutionnel aurait... Il y avait de fortes chances qu'il retoque tout ça. Oui. Alors... On aimerait comprendre à quoi ça sert. Est-ce qu'il n'y a plus de possibilité de recours? À quoi ça sert? Est-ce qu'on est dans la politique politicienne? On en est où là maintenant?
Bon, d'abord, on va peut-être revenir sur le côté pas suspense, parce qu'en fait, le Conseil constitutionnel, on dit beaucoup, ah, ils ont pris le pouvoir, c'est le pouvoir des juges. Je ne suis pas assez d'accord, tout à fait d'accord avec cette analyse. En fait, le Conseil constitutionnel, tel qu'il a été conçu par les rédacteurs de la Constitution de la Ve République, M. Debré et M. De Gaulle, c'était une sorte de gardien. C'est vrai, de la lettre de la Constitution, mais aussi le gardien de la volonté de l'exécutif. Et qu'est-ce que fait le Conseil constitutionnel? Il donne toujours raison au gouvernement. C'est ce qu'il avait fait déjà sur la loi immigration, et c'est ce qu'il refait aujourd'hui. Il n'y a rien de surprenant là-dedans, en fait. Ensuite, bien sûr que pour... Donc ils font un peu de la politique, ces gens du Conseil constitutionnel, mais ils font de la politique parce qu'ils s'appuient sur le droit. De toute façon, effectivement... Si jamais on leur avait donné la possibilité de dérouler, il y a quatre étapes, hein, c'était la deuxième étape, le Conseil constitutionnel, il aurait fallu réunir, vous vous rendez compte, 5 millions de signatures des Français en 9 mois, c'est quasiment impossible, et à la fin des fins, le président de la République aurait pu décider soit de procéder à un référendum, soit de passer par la voie parlementaire. On se doute un peu de ce qu'aurait fait le président de la République.
Alors pourquoi LR se lance-t-elle dans cette entreprise, entre guillemets, inutile?
Oui, quasi perdue d'avance, on va dire ça comme ça.
Quelle stratégie?
Moi, je pense qu'il y a trois raisons. D'abord, on est en période électorale. Donc, évidemment, c'est une gesticulation assez populaire. Il y a un sondage qui date d'aujourd'hui, CSA, CNews, Europe 1, JDD, qui mesure à 69% que les Français sont pour un référendum pour l'immigration. Donc les LR savaient que ça ne fonctionnerait pas, mais ils ont intérêt à le faire croire aux Français, en tout cas à faire croire qu'ils le soutiennent, évidemment. Deuxièmement, on avait parlé de la censure, souvenez-vous, de la menace de censure des LR. On est toujours dans une sorte... C'est pas qu'une posture un peu démagogique, c'est aussi, à mon avis, un élément de négociation pour LR vis-à-vis du gouvernement. D'abord, ils se vengent un peu de ce que leur a fait Emmanuel Macron, toutes les avanies subies depuis 2017. Et en plus, on ne sait pas ce qui peut se passer après les européennes. Mais on sait une chose, c'est qu'il va se passer des choses après les européennes, puisque le rapport de force politique va être modifié. Le président de la République va devoir obéir à sa tutelle, vous savez, de Bruxelles, qui lui dit baisser les dépenses. Bah, ça tombe bien, c'est un sujet pour LR. LR, on peut se dire aussi qu'ils essayent finalement avec ce projet de référendum de se rappeler au bon souvenir du gouvernement et d'installer un rapport de force. Je ne dis pas qu'ils vont nécessairement négocier, mais ils s'ouvrent plusieurs possibilités. Soit ils se montrent comme opposants, hein, soit ils vont pouvoir effectivement négocier. Alors, je ne dis pas non plus que LR ne veut pas sincèrement limiter l'immigration. Je dis que là, sur cette affaire de référendum, il y a un débat. Soit ils veulent davantage limiter l'immigration, ou soit ils sont prêts à redonner le pouvoir au peuple. Je pense que la forme du référendum d'initiative partagée est telle qu'ils ne sont pas tout à fait favorables au référendum. Et surtout, je ne crois pas qu'ils aient envie, finalement, d'ouvrir cette boîte de Pandore. Redonner un pouvoir, le pouvoir au référendum, c'est quand même potentiellement dangereux. La question, c'est pourquoi, d'ailleurs, et je termine là-dessus, avoir conçu chez LR un bouclier démocratique, je suis plutôt pour protéger, disons, ce que veulent les Français, à la fois du gouvernement des juges, à la fois de l'Europe. Pourquoi sur l'immigration et pas, par exemple, sur l'agriculture? Pourquoi sur l'immigration et pas sur la concurrence déloyale? Pourquoi sur l'immigration et pas sur les commandes publiques? Pourquoi sur l'immigration et pas sur le marché européen de l'électricité? Pourquoi? Pourquoi ne pas rétablir jusqu'au bout la démocratie? C'est la question qu'on se pose.
Merci infiniment de vous être penché sur ce sujet très technique, mais qui en dit long, effectivement, sur ce qui se passe au niveau politique. Près d'un an après les émeutes, Charlotte Dornelas, un sénateur LR, François-Noël Buffet, a rendu son rapport sur les émeutes de l'été dernier. Coût total 800 millions d'euros, profil des auteurs. Qu'est-ce qu'on apprend de nouveau dans ce rapport ?
Mais déjà, la première chose, on va dire, qu'on peut reconnaître à ce rapport, c'est que 9 mois après, il remet ce sujet important au cœur du débat. Et d'ailleurs, François-Noël Buffet le dit, il appelle le gouvernement à ne pas oublier ce qui s'est passé en juin dernier au motif que tout serait redevenu normal. Il a cette phrase, il dit « Rien ne permet d'affirmer qu'ils ne se reproduiront pas dans un proche avenir ». Et dans le rapport, il écrit vraiment noir sur blanc qu'il serait vraiment irresponsable de ne pas penser à la prochaine fois, c'est-à-dire de ne pas analyser suffisamment correctement pour ne pas être prêt à voir ces émeutes ressurgir. En gros, en analysant les raisons des émeutes, ils me disent qu'il n'y a aucune raison que ça ne se reproduise pas. Alors évidemment, ce qu'on n'apprend pas, c'est que la mort de Naël était un prétexte. Et alors, cette phrase quand même, dans le rapport, ils ont entendu, il y a eu 80 auditions, ils ont entendu beaucoup de monde, notamment le renseignement, etc. Et alors, ils écrivent cette phrase... Plusieurs endroits du territoire étaient, semble-t-il, prêts pour un affrontement avec les forces de l'ordre, comme en témoignent les importants stocks préconstitués de mortiers d'artifice, ainsi que la coordination et l'organisation qui ont pu être constatées localement dans les cibles et le modus operandi des participants aux actions ultra-violentes de ces premières nuits d'été. Ce qui est en train de nous expliquer, en l'occurrence François-Noël Buffet, c'est que en travaillant, en auditionnant tous les gens, en allant faire des visites dans les villes qui ont été touchées, ils se sont rendus compte que ces émeutes, elles étaient prêtes. Elles étaient prêtes, donc il y a des gens qui les ont organisées, qui les ont pensées, qui se sont armés pour pouvoir les mener. Et donc, en effet, la mort de Naël est un prétexte, parce qu'on ne se prépare pas, ils ne pouvaient pas se préparer pendant des mois, voire des années, sans savoir évidemment ce qui arriverait. Donc il y a une étincelle. Et c'est ce qui s'est passé. Ils expliquent aussi que les émeutes, il y a eu au début, dans certaines villes, en effet, l'émotion, on va dire, c'était la vidéo de la mort de Naël, de ce policier tirant sur la voiture dans laquelle était Naël, et que petit à petit, ça s'est transformé en véritable insurrection, et en étant absolument décorrélé des premiers jours. Et il parle également d'un rapport, un degré d'organisation et de désinhibition déconcertant. Et ça, c'est les policiers qui leur rapportent ça, de ce qu'ils ont vu et de ce qu'ils ont eu à affronter. Et les renseignements, quant à eux, évoquent carrément de véritables techniques de guérilla urbaine utilisées pendant ces émeutes. Alors après, ils font un bilan un peu de ces émeutes, vous l'évoquiez. Il y a 2 décès directement liés aux émeutes, nous disent-ils. 1 millier de personnes blessées, dont 782 agents des forces de l'ordre, que ce soit police, gendarmerie ou pompiers. Et le coût de ces émeutes, vous le disiez, ils disent, eux, l'estimation des dommages atteint 1 milliard d'euros. Et le chiffre que vous donnez, voilà, 793 millions, ils sont... c'est
seulement les assureurs.
Voilà, c'est ça. C'est ce qui a été transmis, on va dire, aux assureurs. Ils précisent que c'est un montant 4 fois supérieur à celui des émeutes de 2005. Il y a 2508 bâtiments qui sont incendés ou dégradés, et pas n'importe lesquels, nous disent-ils. 273 bâtiments des forces de l'ordre, 105 mairies, 273 écoles. Les écoles, c'est très particulier quand même, parce que moi, je veux bien l'abandon, les écoles, il faut les restaurer. On va commencer par les brûler. Ça va être compliqué. Plus de 12 000 véhicules incendiés pendant quelques jours. Par rapport à 2005, parce qu'on a beaucoup fait le lien, 2005, c'est 3 semaines. Là, on a bien pire en quelques nuits d'émeutes seulement. Plus de 12 000 véhicules incendiés, beaucoup sont de la police et de la gendarmerie. Environ 1 500 commerces vandalisés ou pillés un peu partout. Et alors, dans ce rapport, on trouve aussi un profil type de l'émeutier. C'est ce qui les intéressait. Voilà, vous avez le détail des commerces qui ont été vandalisés. Le profil type de l'émeutier qui a été fait notamment grâce au concours de la justice, avec les données qui lui sont accessibles évidemment, vous allez voir pourquoi. Alors le profil type, c'est un homme de nationalité française, âgé de 23 ans en moyenne, célibataire sans enfant, hébergé souvent par ses parents, ayant un diplôme de niveau secondaire, maximum baccalauréat, plutôt en activité. Et dans le détail, on voit que 91% des auteurs sont des hommes, 71% sont de nationalité française. Alors je note que quand même dans des émeutes en France, le fait que 71% d'émeutiers soient de nationalité française, ça veut quand même dire qu'il y en a 30% qui ne le sont pas. Il y a 30% de personnes de nationalité étrangère qui participent aux émeutes qu'on a vues contre le pays, en l'occurrence, donc qui les accueille. Moi, 30%, je trouve ça énorme. Gérald Darmanin, déjà, nous avait dit 10% sur le coup dans les premières interpellations. Déjà, 10%, c'était pas rien. 1 personne sur 10, mais là, c'est 3 personnes sur 10. Pardon, mais c'est pas rien. Voilà pour le profil type, on va dire, qui sort de ce rapport.
Alors,
justement sur ces auteurs, qu'est-ce qu'on apprend de plus sur leur profil et sur les suites à donner à ces émeutes, parce qu'il y a eu 25 propositions qui ont été faites.
C'est ça. Et même sur les suites judiciaires, on va dire, parce que on a oublié les émeutes, mais on a oublié aussi les réponses qui sont données à ces émeutes. On va dire un tiers des interpellés sont des mineurs, mais ils sont de grands mineurs. Nous dit le rapport, la moyenne se situe entre 17 et 18 ans pour les mineurs. Donc vous voyez tous les débats sur l'excuse de minorité, en l'occurrence sur les émeutes. Le juge peut déjà la lever, l'excuse de minorité, entre 17 et 18 ans, même entre 16 et 18 ans. Le rapport précise un autre point intéressant. Les émeutiers se situent dans des situations plus fragiles et défavorisées que la moyenne des Français sur les plans familial et socio-économique. Le familial étant important, à mon avis. Mais sans marginalité sociale, nous dit-il, près de 3/4 des mineurs déférés sont inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur. Donc, vous voyez, c'est pas non plus une marginalité absolue, complètement de ces émeutiers. Il s'attarde aussi sur le fait, vous savez, on nous avait dit, l'immense majorité d'entre eux sont des primo-délinquants. C'est-à-dire des gens qui n'avaient jamais eu affaire ni à la police ni à la justice. On avait évoqué le chiffre de 60% et le rapport nous dit, il subsiste une partie immergée de l'iceberg qui échappe à l'ensemble des acteurs et qui semble davantage constituée de personnes inscrites dans des parcours de délinquance d'habitude. Et là, je renvoie quand même à notre explication du début où on nous dit il y avait des quartiers entiers qui étaient prêts à ces émeutes. Alors, si vous avez des gens qui sont prêts aux émeutes, qu'ils soient primo-délinquants ou pas, ils avaient déjà anticipé quand même leur participation à la délinquance déjà. Et par ailleurs, vous le savez, dans des émeutes, quand il y a des groupes comme ça, quand les policiers arrivent et décident d'interpeller, en général, ils interpellent aussi ceux qu'ils ont sous la main. Et donc, les plus organisés, ceux qui ont le plus à faire, qui ont déjà eu le plus à faire à la police, et qui sont aux commandes même d'une délinquance d'opportunité de certains.
Un peu comme les Black Blocs.
Un peu comme les Black Blocs, exactement. C'est-à-dire que ce n'est pas sur eux que la police tombe en premier. Et les informations transmises à la mission, nous précise le rapport, précise que le travail d'enquête judiciaire qui se poursuit aujourd'hui, donc pour les faits les plus graves, concerne souvent des personnes qui sont connues des services de police. Donc ce n'était pas tout à coup des petits jeunes qui n'avaient jamais eu affaire à la police, qui étaient très énervés après la mort de Naël et qui ont été cassés ce qu'ils avaient sous la main. Ça casse un peu cette image-là, évidemment. Naël est quasi inexistant dans les débats, ça on l'avait déjà vu avec le rapport de la préfecture de police, me semble, ou le ministère de la Justice. Il n'y a pas de mouvement vraiment politique non plus. Et il y a, alors, cette réaction violente procéderait, nous concède quand même ce rapport-là, d'un sentiment de relégation sociale tenant à un désancrage subi ou entretenu entre les émeutiers et le reste de la population. C'est-à-dire, en fait, quand on dit subi ou entretenu, c'est-à-dire qu'il y a 20 ans, quand on nous parlait des territoires perdus de la République ou des territoires perdus de la France, c'était exactement ce que ça voulait dire, que ce soit subi ou entretenu, ça relève du débat politique. Mais par contre, qu'il y a des territoires qui ne vivent pas de la même manière que le reste du pays, c'était déjà ce qui était dit. Peut-être qu'à l'époque, on aurait pu réagir de manière plus efficace. Mais notons aussi que l'extension de ces quartiers prioritaires de la ville, de ces villes auxquelles on attache des banlieues, dans la répartition notamment des populations qui sont initialement dans les quartiers prioritaires, a généré aussi une extension de ces émeutes. Par rapport à 2005, c'est stupéfiant le nombre de communes, de petites villes qui sont touchées par ça. Donc moi, je viens, donc la ghettoisation, ça fait des émeutes. La répartition, ça fait aussi des émeutes. Il y a un moment, il va peut-être falloir trouver des raisons qui s'additionnent au minimum. Parce que évidemment, les raisons sont multiples. Mais il y a au moins des raisons qu'on oublie probablement.
Alors, que faire désormais? Que préconise le rapport et qu'en dit le gouvernement?
Alors, il demande ce rapport, donc vous voyez qu'il précise encore un peu plus le profil avec les données notamment qui émanent de la justice, et il réclame au gouvernement justement d'aller jusqu'au bout avec toutes les informations dont il dispose, parce que le gouvernement disposant évidemment du maximum d'informations, et ils expliquent que c'est une démarche indispensable pour comprendre les dynamiques qui ont été à l'œuvre à l'été 2023, toujours avec l'idée de prévenir et de mieux réagir aux prochaines émeutes. C'est vous dire à quel point ils prennent au sérieux l'idée des prochaines émeutes. C'est qu'ils expliquent qu'il faut qu'on avait une réponse policière qui n'était pas coordonnée au niveau national, et que donc il faut moderniser cette réponse-là et la prévoir pour pouvoir répondre éventuellement si ça arrive à nouveau. Après, ils entrent dans des détails de formation, de production de munitions, notamment pour les policiers qui ont affaire aux émeutes, les munitions commençant avec les LBD, hein, c'est pas un appel à tirer sur tous les gens qui bougent. Il y a l'idée du marquage codé, vous savez, en cas d'émeute, les canons à eau qui lanceraient une couleur pour marquer toutes les personnes qui participent aux émeutes, ce qui à mon avis ne réglera rien, parce que devant la justice, il faut des éléments un peu plus sérieux que ça. La question des mortiers d'artifice, mieux contrôler les réseaux sociaux, se servir des polices municipales. Vous voyez, beaucoup de sujets qui sont déjà abordés extrêmement régulièrement, mais ils nous disent sur le long terme, il faudrait se poser la question de l'autorité, ça c'est pas très nouveau, des politiques de logement et d'accompagnement des quartiers, ça c'est un peu plus nouveau. De l'autre côté, vous avez le gouvernement qui nous explique que tout se situe au niveau de la justice des mineurs. Il y a des questions très intéressantes qui sont soulevées à cette occasion, mais je note que personne ne prononce le mot immigration dans le bilan de ces émeutes, et je le dis exactement de la même manière que tout à l'heure, c'est parce que si nous avons un problème avec des troisième et quatrième générations, il est peut-être temps de se dire par prudence, on va déjà régler ce problème avant d'exposer notre générosité aux yeux du monde, tout ça pour finir en disant « oui mais on les abandonne, c'est normal ». Si on les abandonne, on arrête de faire venir des gens pour les abandonner, déjà pour commencer, vu les résultats que ça donne.
Merci beaucoup Charlotte Dornelas pour votre regard sur le rapport des émeutes. Dernière partie, Mathieu Bock-Côté, beaucoup de questions se posent, je le disais en titre, au lendemain de l'attaque de Bordeaux, on disait a priori un Afghan de 25 ans qui a tué une personne et blessé grièvement une autre parce qu'il buvait de la bière le jour de l'Aïd el-Fitr, je rappelle tout ça, piste privilégiée pour l'instant, l'assaillant a été abattu par la police après avoir tenté de prendre la fuite. Le maire de Bordeaux, Europe Écologie Les Verts, s'est empressé de déclarer que l'armement de la police municipale n'aurait pas évité le drame. La police municipale de Bordeaux, rappelons-le, ne dispose pas d'armes à feu. Question ce soir, faut-il armer la police municipale ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est quelques jours auparavant, à Bordeaux, il y a eu un débat pour savoir s'il fallait ou non armer la police municipale. Donc, comme quoi, rien n'arrive par hasard, pourrait-on dire. Alors, l'opposition à Bordeaux dit qu'il faut armer la police municipale. Je précise que l'opposition s'y opposait auparavant. Donc, lorsqu'elle était au pouvoir, elle disait que ce n'est pas une bonne idée d'armer les policiers municipaux. Rendu dans l'opposition, tendance LR, les LR disent... Vous savez, les LR, ça change de temps en temps d'idées. C'est étonnant. Quand ils sont dans l'opposition et au pouvoir, ils ne pensent pas la même chose.
Je leur reproche pas. Il n'y a pas que.
Je sais, mais je le constate, c'est tout. Je disais ça comme ça. Donc là, ils nous disent, il y a l'air dans l'opposition, il est nécessaire d'armer les policiers municipaux. Réponse des, notamment de Marc Etcheverry, qui est un adjoint au maire, sa réponse est assez intéressante. Il nous dit « armer les policiers municipaux serait une erreur stratégique et une fuite en avant. » Et ça viendrait, dit-il, consacrer le désengagement de l'État. Donc, vous voyez le retournement de l'argument, c'est que si on décidait d'armer la police municipale, c'est que dans les faits, on déchargerait de sa responsabilité les autorités de l'État qui, elles, sont déjà armées. Donc, on nous dit finalement, la fonction de la police municipale, ce n'est pas celle-là, ce n'est pas d'être armée. Sa fonction relève davantage de la tranquillité publique que de la sécurité. Dès lors, ne nous aventurons pas sur ce terrain. Et là, quel est l'argument aussi d'Etcheverry, figure au pouvoir, c'est des écolos, hein. Lorsque vient le temps de dire, parce que les gens de l'opposition, les LR, disent on va faire un référendum à Bordeaux pour permettre l'armement de la police municipale. Et quel est l'argument exceptionnel de nos amis écolos? Avec votre référendum local sur l'armement local, vous faites du populisme, vous êtes en train d'attiser les peurs, c'est du CNews! Fin de l'argument. Donc ça, on est partout, hein, finalement. Et là, c'est intéressant néanmoins comme argument, c'est-à-dire cette idée. On ne répond pas à « serait-ce utile dans les circonstances ?» Et j'en arrive aux circonstances d'armer les policiers. Il suffit d'utiliser les mots qui font peur, populisme, faire des peurs, CNews, pour faire taire le débat.
Je crois que... extrême droite.
J'ai pas vu le mot, mais je devine qu'il doit être pas loin. Je pense que dans leur esprit, CNews, c'est une forme d'équivalent pour ces gens. Alors, ce qui est intéressant à travers tout ça, c'est que, bon, c'est l'argument anti-police, hein. Je reviendrai dans un instant, c'est l'idéologie anti-police qui s'exprime toujours d'une manière ou d'autre, notamment dans cette frange de la gauche qui est liée aux écolos. Idéologie anti-police, donc avec cette idée qu'il ne faut pas armer les policiers, parce que derrière, la violence ne serait jamais que le symptôme d'autre chose, d'un dérèglement de la fabrique sociale, d'une société plus injuste, bon, faites la liste de tout ce qu'on peut imaginer, mais je note que les policiers, eux, réclament de plus en plus, policiers municipaux réclament des armes. Et après, notamment, Charlotte vient de nous en parler, après les émeutes de Naël, ils ont dit, là, il faut qu'on soit armés. Pour notre travail, c'est nécessaire d'être armés aujourd'hui. Parce que la situation qui est la suivante, c'est que les voyous, la violence est en augmentation aujourd'hui, la violence augmente. Et les policiers, eux, ne sont pas à la hauteur des moyens des voyous. Donc, on pourrait dire, il y a quelques années, dans une société plus apaisée, la police municipale n'avait peut-être pas à être armée. Mais quand on vit dans un monde aujourd'hui où n'importe quel type qui a 25 ans et qui se permet d'aller poignarder comme ça au hasard quelqu'un pour jouer au contrôleur des passions religieuses des uns et des autres, peut-être qu'on évolue dans une société où la jeunesse est de plus en plus violente, dans une société où il est de plus en plus facile de tabasser les uns les autres, peut-être que dans cet environnement de grande violence, les policiers municipaux doivent s'adapter. Mais les écolos de Bordeaux n'y sont pas favorables.
Alors vous parlez d'un mouvement anti-police.
Oui.
Il n'est pas exclusivement français.
Ah non.
Est-il en progression ou en régression dans le monde occidental, ce mouvement anti-police?
Alors j'ai pensé à ça toute la journée, de quelle manière le dire, et c'est assez simple. Il est en progression et en régression. Il est en progression partout dans les lieux producteurs de légitimité intellectuelle. Faites le tour des départements de criminologie, le tour des départements de sociologie, le tour des départements qui prétendent penser la société, donc à l'université. Globalement, on vous dit « la police est une institution coupable ». On fait le procès de la police en toutes circonstances. Dès lors, l'idée d'armer la police, c'est pas l'idée. Vous savez, « defund the police », définancer la police, s'accompagne souvent de « disarm the police », donc désarmer les policiers. Donc ça, ce mouvement progresse idéologiquement, surtout dans les villes de gauche. Les villes de gauche sont aujourd'hui les laboratoires du néo-socialisme vert. Au même moment, les populations à qui on dit c'est formidable, on va désarmer les policiers, vous ne serez plus en danger, mais ce sont les premières à dire non, on ne veut pas désarmer les policiers, ne désarmez pas les policiers parce que les bandits ne sont pas désarmés, parce que les voyous ne sont pas moins violents, donc ne désarmez pas les policiers. Donc ceux à qui on destine cette chance immense d'avoir une police non armée chez elles réclament un peu partout des policiers armés capables de réagir aux voyous. Ce n'est pas un détail.
Ce n'est pas un détail. Merci pour votre regard. 10 secondes pour terminer. Geoffroy Lejeune, vous n'êtes pas souvent avec nous. Mot de la fin.
Je reviens sur l'argument de C'est du CNews qui est censé être disqualifiant. C'est intéressant parce que dans tous les sujets qu'on a abordés ce soir, en réalité, vous comprenez qu'à chaque fois, il y a une erreur et une gestion tragique de notre politique migratoire depuis maintenant plusieurs décennies. Les gens veulent que ça change, mais les gens ne sont pas écoutés. Il ne faut pas s'étonner qu'à la fin, CNews, du coup, soit la première chaîne Info de France.
Mais l'Europe va nous arranger ça.
Merci en tout cas d'être première chaîne Info. Hier soir, on a commencé à 200 000 téléspectateurs, on a fini à 900 000. Donc ouais. Merci en tout cas. Vous êtes peut-être 900 000 maintenant. On vous embrasse tout de suite. L'heure des pros avec Pascal Pro. Excellente fin de soirée.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.